Vous n'en prenez pas parce que vous ne les tenez pas? C'est à peu près ça. Ça ne marche pas toujours, ça. Avez-vous remarqué quand on pose la question « Comment ça va? » Quand on pose la question « Comment ça va? » les gens en général disent « Ça va bien! » C'est vrai, ça? Oui. C'est une réponse qui est relative, hein, parce qu'en réalité, ça ne va pas toujours bien. Mais on dit « ça va bien » parce que si on ne dit pas « ça va bien », il va y avoir une deuxième question, puis on ne veut pas la deuxième question. Alors, on dit « ça va bien ». Ou on dit « ça va ». Il y a un gars comme ça qui a demandé à son chum, il dit « comment ça va? » Ah, il dit « ça va ». Il était sûr que ça va? Oui, ben il dit « ça va ». Ben, il dit « matin, ça va moins bien parce qu'il dit « mon char ne part pas ». Mais il dit « voyons donc, ton char ne part pas ». Mais il dit « à part ça, ça va ». Mais il dit « en plus, ils ont annoncé aux nouvelles ce matin que le gaz n'était pas augmenté ». Oui, mais il dit, c'est pas grave, ton char part pas. Avez-vous écouté les nouvelles, vous autres, dernièrement? Avez-vous entendu dire que ça va mal dans le monde? Vous avez entendu dire ça? Tout le monde sait que ça va pas bien dans le monde, et tout le monde sait que ça ne s'améliorera pas non plus. Depuis quelques décennies, les politiciens nous disent qu'à cause des gaz à effet de serre, il y a un trou béant dans la couche d'ozone à la grandeur des États-Unis. Et tous les politiciens qui ont succédé ont tenu le même discours. Nous voulons réduire les gaz à effet de serre parce que nous voulons laisser à nos enfants et nos petits-enfants un avenir propre. Vous avez déjà entendu ça? Depuis l'annonce de ces promesses, les enfants et les petits-enfants, ils ont grandi. Ils sont rendus des adultes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils crient haut et fort, on veut arrêter ça. On veut arrêter ça. Vous avez déjà entendu ça aussi? Vous voyez les jeunes comme ils sont rendus aujourd'hui à la télévision, puis ils voudraient arrêter ça, mais le train est parti, puis ils ne sont plus capables d'arrêter. Puis il est déjà trop tard. Je lisais hier quelque chose qui disait, si on arrêtait là, complètement. Il y a carbone dans l'air qu'on en aurait encore pour 100 ans. C'est négatif un peu, là, mais c'est la réalité. Ma question pour ces jeunes-là, c'est que eux, leur espérance, c'est de sauver la planète. Les plus riches veulent se sauver de la planète. Ils s'en allaient chez une autre planète, mais les jeunes veulent sauver la planète pour avoir une meilleure qualité de vie, bien entendu. Mais ma question pour vous ce matin, c'est quelle est votre espérance? Est-ce que c'est réduire les gaz à effet de serre, profiter de la vie au maximum en voulant éviter les catastrophes, gagner la 649, profiter d'un voyage au chaud? C'est quoi votre espérance? Dans la première épître de Timothée, on lit... c'est la batterie qui est faible ou c'est, je parle de quoi? Ça ne marche pas. Ah! Première épître de Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Eh bien, si c'est Jésus-Christ, notre espérance, ne laissez personne... Vous enlevez votre espérance. Vous savez que selon 1 Jean 3:3, notre espérance est de le voir tel qu'il est, de le rencontrer face à face. C'est ça notre espérance. Moi, depuis mon enfance, j'avais appris que Jésus était né dans une crèche à Bethléem. Qu'à 2 ans, ses parents avaient dû fuir en Égypte. Qu'à 12 ans, il avait rencontré le docteur de la loi au temple. À 30 ans, il a été baptisé. À 33 ans, il est mort sur une croix. Je savais tout ça, moi. J'ai reconnu mon état de pécheur, que je me suis repenti, accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Le retour du Seigneur, ça, je ne savais pas ça. Je savais qu'il était venu une première fois, mais je ne savais pas qu'il revenait une deuxième fois. Et ça a été toute une surprise. J'écoutais un reportage dernièrement de Jacques Beauvert. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jacques Beauvert. C'est un Suisse. Il a fait plusieurs reportages. Il a fait un reportage à la télévision en Suisse tout dernièrement. On lui posait un paquet de questions. Est-ce que vous attendez la fin du monde? Il dit non, je n'attends pas la fin du monde, j'attends la fin d'un monde. Il y a un système qui achève, qui va commencer un autre. Et Jacques Beauvert a dit dans ce reportage, il dit, il y a 737 prophéties dans la Bible face au retour de Jésus-Christ et 600 sont déjà accomplies. Relatif, vous allez me dire, mais avez-vous, il en reste peut-être une centaine à accomplir. On en a encore pour quelques années. Mais savez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, 33 prophéties ont été accomplies en quelques heures? Alors, s'il reste une centaine de prophéties à s'accomplir, croyez-vous qu'il pourrait s'accomplir en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois? On ne sait pas. Dans la période de la tribulation, dans l'Apocalypse, on va voir les marchands diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles en une seule heure. » Ça va vite. Les prophéties s'accomplissent très vite parfois. En une seule heure, toutes ces richesses sont tombées. 33 en quelques heures, puis dans toutes les richesses d'un système en une heure. Ça veut dire que les prophéties, les seules qui restent, là, peuvent s'accomplir très rapidement. Très, très rapidement. Que la seconde venue du Seigneur Jésus est mentionnée 318 fois dans le Nouveau Testament. Pas pour rien. Mais soyez sans crainte, je ne suis pas celui qui fixe des dates. Je ne fixe pas de date, pas de mois, pas d'année. J'ai simplement regardé, j'observe, puis je vois qu'il y a une grosse tempête qui s'en vient. On est très, très près. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. On est très, très près d'une prochaine guerre mondiale. Il y a un paquet d'affaires qui se met en place et ça va très, très rapide. Vous savez, la connaissance double tous les deux mois. Et le petit bébé, le premier bébé de l'année, là, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal, paraîtrait-il que lui, il ne conduira jamais une auto. Parce que la technologie va tellement développer qu'on n'aura plus besoin de conduire. C'est fou, là, la vitesse, ça va, là. Il y a une grosse tempête qui s'en vient, une grosse une prochaine guerre qui s'en vient, c'est pas l'Armageddon. Avant l'Armageddon, il va arriver autre chose, ça c'est certain. Est-ce que vous êtes prêts, vous autres? C'est peut-être aujourd'hui? La seconde venue de Christ est le deuxième sujet principal du Nouveau Testament. Un verset sur 30 fait référence à la seconde venue de Jésus et à son retour en gloire. Si la seconde venue de Jésus est si importante aux yeux de Dieu, elle devrait l'être pour nous. Remarquez bien que la vie et l'enseignement des premiers chrétiens étaient marqués par la seconde venue de Christ. Ils connaissaient la promesse et ils la prenaient au sérieux. Ils avaient passion de présenter ça à tout le monde qui était autour d'eux. Et en l'an 313, le christianisme était tellement présent que Constantin en a fait la religion d'État de l'Empire romain. La certitude de la seconde venue de Christ motivait les premiers chrétiens, puis des siècles ont passé, Christ n'est pas toujours revenu, mais il pourrait revenir n'importe quand. Cela signifie qu'il pourrait arriver d'un jour à l'autre. Êtes-vous prêts? Pour vous qui... question pour vous, si vous saviez que Christ allait revenir dans quelques semaines ou dans quelques jours, cela affecterait-il la liste des priorités de votre vie? Est-ce que ça changerait votre programme à TV? Est-ce que ça changerait votre programme le samedi soir? Posez-vous la question. Parce que le Seigneur peut venir n'importe quand, vous ne savez pas. Mais nous autres, on est basés sur des promesses. des promesses sur lesquelles nous pouvons compter. Dans l'Évangile selon Jean, il y a un verset qui nous donne un avant-goût de cette promesse. C'est Jean 14, qui nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avez-vous remarqué ce qui est souligné? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est une autre façon de dire, il est sûr et certain que ça va arriver. Il va préparer une place, il va revenir, il va nous prendre avec lui. Ce n'est pas des si ou des peut-être, des conditions, il n'y a pas de période, il n'y a pas d'expiration, date d'expiration, il n'y a rien. C'est la première fois qu'il parle de prendre avec lui les croyants afin de les introduire dans la maison du Père. En résumé, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. Je vais vous préparer une place. Il l'a promis. Est-ce qu'on croit aux promesses? C'est sûr qu'il reviendra. L'Évangile de Luc se termine en mentionnant cette ascension au ciel. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les yeux, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après cela, on arrive dans les Actes des apôtres. Et les anges, ils disent aux apôtres, au chapitre 1, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » 2000 ans ont passé depuis que Jésus est remonté au ciel. Nous n'avons aucune inquiétude à savoir qu'un jour il va revenir. Moi, quand j'enseigne le cours ABE avec la grande carte 2A, 2B, j'aime bien rentrer dans les détails avec la croix. La croix qui est le centre de la carte. Et souvent, les gens, on se pose des questions. Ceux de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Mais moi, je me place côté-là, puis je dis, regarde, ceux de l'Ancien Testament, ils regardaient la croix, puis ils disaient, nous, on croit qu'il y a un Messie qui s'en vient. Et ceux qui croyaient étaient sauvés par la grâce de Dieu, David, etc. Nous, on est passé l'autre côté, on passe dans le temps, on est de ce côté-là. Alors nous, on regarde de ce côté-là, puis on dit, Jésus est mort sur la croix. Le Messie est déjà venu. Eux, en espérant ce qu'il viendrait, nous, on vérifie et on sait qu'il est venu. Mais après cette période-là, il y a cette période qu'on appelle la période de la grâce. Et après la période de la grâce, les chrétiens morts en Christ vont ressusciter. Nous, les vivants, on va rester, on va être enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs et recevoir nos récompenses, qu'on va regarder tantôt. Durant les 7 ans qu'on va être au ciel avec le Seigneur, ici-bas, ça va être la grande tribulation pendant la période où est-ce qu'il va avoir la colère de Dieu va se déverser sur l'humanité, ceux qui n'auront pas cru. Et ensuite, le Seigneur va revenir mettre les pieds sur terre et là, tout œil le verra. Tout œil le verra. Certains ont du mal à comprendre que l'enlèvement ait lieu avant la tribulation et que le retour de Jésus n'aura lieu qu'après cela. Moi, j'ai rencontré toutes les positions. J'ai étudié toutes les positions. Il y en a, la majorité croit que l'enlèvement est avant la tribulation. Il y en a qui croient que c'est au milieu de la tribulation. Il y en a qui croient que c'est après la tribulation. Il y en a qui sont rendus en arrière du millénium. Il y en a qui pensent qu'on est déjà dans le millénium. Il y a toutes sortes de positions. Moi, je débat là-dessus. Mais je sais une chose. Peu importe ce que vous croyez, quand le Seigneur va dire « OK », on monte tout pareil. Ça n'a pas d'importance de savoir ce qu'on croit.
Mais c'est plausible, l'enseignement qu'on présente, c'est l'enseignement qui est généralement reconnu. Mais il faut reconnaître une chose, que lorsqu'on parle de l'eschatologie, on parle du futur, il faut toujours y aller délicatement, parce que ce n'est pas vérifiable. On va le vérifier plus tard. Et c'est pas que ça reste toujours un grand mystère. S'il est un grand mystère avec lequel certains chrétiens ont bien du mal, c'est celui de savoir le moment de son retour. Personne ne sait quand il reviendra. Mais vous seriez étonné de voir combien de chrétiens ont du mal à accepter cela. Sur ce sujet, il y a toujours des gens qui viennent me voir et disent « Quand est-ce que tu penses que le Seigneur va revenir? » C'est-tu pour bientôt? Il aimerait ça que je leur donne une date. Ou dernièrement, il y en a qui sont arrivés avec octobre-novembre, selon leur date, ça se faisait en octobre-novembre. Octobre-novembre 2018, bien là, il faut que ça aille en 2019. Ça a toujours été comme ça. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais lorsque... En général, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand Jésus va revenir, puis ils persistent à espérer, à trouver un indice, des chiffres, n'importe quoi. C'est incroyable, tous ceux qui font des recherches. Certains chrétiens vont jusqu'à être déçus que Dieu n'a pas donné assez d'informations. Il y a aussi ceux qui sont convaincus que la réponse est secrète, mais il faut la trouver dans la Bible, il faut chercher. Ils n'ont pas la compréhension de 2A, 2B, là, pour eux autres. Là. Ils ne voient pas que quelque chose va se passer, puis à un moment donné, le Seigneur va venir, puis il va y avoir une guerre. Puis tout ça, ils ne démêlent pas ça. J'ai même entendu, je vais vous le nommer parce qu'il y en a plusieurs qui l'écoutent, c'est Mario Mascotte. Il est vraiment, comme on dit dans le champ, là. Il arrive avec les paraboles des dix vierges. Pour lui, les sages sont sauvés, puis celles qui n'ont pas d'huile, ils rentrent dans la tribulation. Pourtant, ce n'est pas bien compliqué. Quand on étudie Matthieu 24, l'enseignement est donné, parce qu'il y a deux volets, excusez. C'est pas une grippe, un commencement de grippe, c'est juste une irritation. Après Matthieu 23 à Matthieu 24, on a les questions qui sont posées. Il y a une réponse qui est déjà répondue. Ça s'est fait en l'an 70 de notre ère, quand Jérusalem était détruite. Et il y en a un autre qui va se faire quand le Seigneur va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Et après ça, le Seigneur donne trois illustrations, trois paraboles. Une parabole, c'est une illustration. Et dans les trois illustrations, la première, il dit, « Soyez vigilants, soyez prêts, soyez actifs en attendant. » C'est les trois paraboles qui suivent, c'est tout simplement ce qu'ils veulent dire. « Soyez vigilants, soyez prêts, soyez actifs en attendant. » Le fait que ne sachions pas quand Jésus reviendra, qui était quand même un bon côté pour nous autres. On est contraint à vivre avec sagesse, à racheter le temps car les jours sont mauvais. Cela nous apprend qu'il est important de vivre pieusement afin d'attirer les gens à lui. Cela nous montre l'urgence d'évangélisation car nous ne savons pas combien de temps il reste encore pour ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Ce qui est vraiment encourageant, sécurisant pour nous autres, c'est que nous sommes sauvés de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La colère mentionnée dans ce verset fait référence à la grande tribulation. Et en ce qui concerne le retour du Seigneur, tout commence par ce moment de millions de chrétiens qui vont disparaître de la terre, pour aller à la rencontre du Seigneur, Après cela, surviendra la grande tribulation, cette période terrible de 7 ans de jugement que Dieu répandra sur tous ceux qui ne se sont pas repentis. Mais ceux d'entre nous qui auront cru en lui avant la grande tribulation, on n'aura pas à subir la colère à venir. Ce temps d'épreuve nous sera épargné parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Ce n'est pas les chrétiens qui ont cette pensée-là, qui réfléchissent à ça. L'enlèvement ne surviendra qu'au milieu de la grande tribulation. Même le texte de 1 Thessaloniciens 5:9 qui nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. On peut voir aussi 1 Thessaloniciens 1:9 car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu pour abandonner les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre la colère à venir. Et un autre passage intéressant, c'est Romains 5:9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. En plus, on a un passage dans l'Apocalypse qui nous dit, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. » Il y en a plus dit, bon, ça c'est écrit à l'église de Philadelphie. Qu'eux ont vécu des persécutions à cette époque-là. Alors, je devrais penser ça. Mais quand on est. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur Philadelphie. Dans le monde entier. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé, ça. Ce n'est pas arrivé juste dans la région de Philadelphie. Ça va arriver dans le monde entier. Ce n'est pas encore arrivé. Et l'histoire nous montre que cela ne s'est pas produit à cette époque-là, mais que ça va se produire dans le futur. Et remarquez bien que dans l'Apocalypse, du chapitre 4 au chapitre 18, nous ne lisons aucune... On voit tous les détails de la grande tribulation, mais on ne voit jamais le mot « Église », parce qu'elle n'est pas là. On ne sera plus sur terre. L'Église aura été enlevée. Considérez le but de la grande tribulation, c'est un jugement qui va être déversé sur ceux qui n'auront pas cru. Mais nous qui sommes chrétiens, n'avons pas à redouter un tel jugement. Jésus a dû subir le jugement à notre place. Connaissez Romains 8:1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dieu nous promet bel et bien de nous mettre à l'abri des horreurs de la grande tribulation parce qu'on n'est pas destiné à cela. Au contraire, il nous a destinés à habiter avec lui dans le ciel lorsqu'il viendra nous prendre. C'est sa promesse. On est basé sur sa promesse. Alors, notre avenir n'est pas la nervosité, l'anxiété, la crainte, mais l'assurance, la paix dans cette espérance-là. Tous les croyants de la terre seront enlevés avant la grande tribulation et transportés aux cieux, tandis que le jugement va se déverser sur la terre. Et quand on va arriver au ciel devant lui, c'est là qu'on va recevoir nos récompenses. Et en tant que chrétiens, nous ne perdons pas notre salut, mais nos actions comptent pour les récompenses. Le salut, c'est quelque chose qui est acquis, c'est gratuit, mais nous méritons les récompenses par la vie chrétienne qu'on va avoir vécue. Ce qu'on va avoir fait, qui va avoir donné gloire à Dieu, on va avoir une récompense pour ça. On va avoir une récompense il va avoir la couronne incorruptible pour ceux qui auront bien couru dans la vie chrétienne. La couronne de joie, parfois appelée la couronne des gagneurs d'âme. La couronne de justice pour ceux qui attendent et qui aiment le retour du Seigneur. Hey, juste, juste à... vous aimez le retour du Seigneur? On va être récompensé juste parce qu'on a hâte que le Seigneur revienne. Vous avez hâte parce que vous avez des bobos, ce n'est pas une bonne raison, là. Mais c'est avoir hâte de le rencontrer, lui. On va être récompensé pour ça. Couronne de vie pour ceux qui souffrent pour le Seigneur. C'est la deuxième partie. Et la couronne de gloire pour ceux qui enseignent fidèlement la parole de Dieu. Peu importe la signification de ces images, il y aura une récompense. Et le Seigneur, le juste juge, récompensera tous ceux qui attendent son retour, qui auront été fidèles en dépit des difficultés. Couronne la réussite, Dieu couronne la fidélité. Les gagnants n'abandonnent jamais, et ceux qui abandonnent, gagnent jamais. C'est un politicien américain qui a dit ça. Les gagnants n'abandonnent jamais, mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Une autre question qu'on peut se poser, puis que les gens se posent, ce qui est normal, y aura-t-il de l'espoir après l'enlèvement? Vous êtes peut-être déjà posé la question. Après que tous les chrétiens vont avoir été enlevés, nos enfants, nos parents, nos amis, auront-ils encore une chance? De l'espoir pour eux d'entendre le message de la grâce de Dieu? Mais la réponse, c'est oui. Ils auront une autre occasion, et même plus qu'une autre occasion. Cela ne garantit pas le fait qu'ils vont accepter Christ. Ça ne garantit pas le fait qu'ils vont accepter Christ comme leur Sauveur et Seigneur, mais ils auront amplement l'occasion de le faire. Dieu nous donne même un aperçu dans l'Apocalypse de ce que ce seront ces deuxièmes chances. Et le premier qu'on peut voir, c'est les 144 000 témoins juifs qu'on voit dans Apocalypse 7. Nous lisons « Cette bonne nouvelle du royaume », pas la nouvelle de la grâce de Dieu, là on parle du royaume. C'est une étude qu'on peut détailler quand on étudie la grande carte. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Qui va parler là? C'est les 144 000 juifs. Où est-ce qu'ils sont actuellement? Ils sont partout dans le monde. Mais le Seigneur va aller les chercher. Je ne me demande pas comment il va faire, je ne sais pas. Mais je suis toujours posé la question, mais comment il fait le mercredi soir quand on est réunis en prière, puis il y a des milliers de chrétiens qui sont réunis partout. La prière de chacun, puis il répond. Je n'ai jamais compris ça. Personne n'est capable de comprendre ça. Comment le Seigneur va faire pour aller chercher les 144 000? Ça, c'est pas notre, on n'a pas cette capacité-là. Lui, il l'a. Cette mention-là est faite dans le contexte de l'enseignement de Jésus sur la fin des temps. Et nous pouvons être certains qu'une large part de la bénédiction, de la prédication de l'Évangile sera accomplie par les 144 000 Juifs qui sont devenus les 144 000 évangélistes. Il nous dit qu'ils vont atteindre une grande foule. Dans Apocalypse 7-9, c'est marqué qu'ils vont atteindre une grande foule que personne ne pourra compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tout le monde va en entendre parler. Nous savons que ces témoins sont juifs, qu'ils proviennent de toutes les tribus des fils d'Israël, qui sont partout. Alors, tout le monde va en entendre parler. Un deuxième groupe qu'on peut voir, ils ne sont pas gros, ils sont deux, les deux témoins. Eux, probablement, qui vont être à Jérusalem. Ces deux témoins-là vont proclamer le message prophétique, qu'accompliront des miracles étonnants, des témoignages extraordinaires de la part de Dieu. Et ces témoins-là prêcheront essentiellement la repentance conduisant un grand nombre à Christ. Les miracles témoigneront de la puissance de Dieu. Même l'Antéchrist ne pourra pas rien faire avec eux autres, parce que Dieu va avoir l'approbation sur eux. Vous allez me dire, oui, ils sont à Jérusalem. Oui, c'est vrai. Nous vivons à l'ère électronique, nous montre comment le message des deux témoins va pouvoir être compris et vu partout sur la planète. TV, Internet, aujourd'hui, c'est pas un problème. Alors, on ne pouvait pas comprendre ça il y a 20-25 ans, mais aujourd'hui, on peut comprendre, même si ça se passe à Jérusalem, ça va être vu partout sur la planète. Tout le monde va voir ça. Mais il y a encore plus fort que ça. Il y a un ange avec un évangile éternel qui va se présenter. Durant ces 7 ans de tribulation, et c'est sûr, c'est une autre occasion qui va se présenter là. C'est Apocalypse chapitre 14 et le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. » Est-ce qu'ils vont l'entendre? Il n'y aura pas le choix. Hein? Vous savez, un ange qui va se promener au-dessus de la terre et va annoncer. Tout le monde va l'entendre. Ceux qui croiront seront sauvés. Voyez-vous, le désir de Dieu est que le plus grand nombre possible soit sauvé. Telle est la raison pour laquelle il a attendu avant de manifester le jugement final de ce monde. Notre Dieu est prêt à tout faire, tant il désire emmener les hommes à lui. Alors, ne laissez personne vous enlever votre espérance. Si l'on considère que le retour de Christ est la deuxième doctrine la plus fréquentée, la plus fréquemment abordée dans la Bible, elle devrait aussi être importante pour chacun de nous. Le fait de vivre conscient du proche retour du Seigneur devrait avoir un impact dans nos vies. On est de plus en plus près, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Je dis que vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il n'attendra pas. C'est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous dit ce matin, soyez persévérants, il va venir, ça approche. Si nous avons besoin d'être patients dans tous les domaines de notre vie, ça devrait être particulièrement dans ce cas-là, attendre le retour du Seigneur. Et cette attente devrait influencer tout ce que nous faisons. Servir en attendant. On raconte à notre sujet comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En attendant, notre responsabilité est de servir le Seigneur, puis il y a toutes sortes de possibilités de le servir. Et je pense que chacun de nous autres, on va aimer ça, entendre ça. Quand le Seigneur va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est bon, ça va être bon d'entendre ça. Entre dans la joie de ton maître. Alors, ne laissez personne vous enlever votre espérance. Réjouissons-nous de cette espérance, de cette merveilleuse espérance. Dans l'Épître de Pierre, nous lisons, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance. » C'est pas mort, c'est une espérance vivante. Et le verset suivant dit, « Un héritage certain, il vous est réservé dans les cieux. » Vous savez qu'il y en a qui attendent le vendredi toute la semaine. Ils attendent l'été, toute l'année. Ils attendent le bonheur toute leur vie. Nous attendons le Seigneur pour bientôt. À 3 reprises dans Apocalypse 22, il dit à l'Église, « Je viens bientôt. » C'est sa dernière promesse. On a vu la promesse, la première, dans Jean 14, mais la dernière, dans Apocalypse, les derniers versets, Il dit, je viens bientôt. Et l'Église dit, amen, viens Seigneur Jésus. Je viens bientôt. Prions. Seigneur, on veut te remercier de nous rappeler encore ce matin cette merveilleuse promesse que tu nous as faite, que tu vas venir nous chercher. Tu nous as préparé une place, puis tu vas venir nous chercher pour nous emmener dans cette belle place préparée. Seigneur, on est ici bas. On a une responsabilité à faire. Maintenant, on doit être actif. Prions, Seigneur, de travailler dans nos vies, de nous emmener pour qu'en 2019, notre vie soit différente dans 2018 et les autres années. Que nos yeux soient axés vers cette promesse. Et nous te prions, Seigneur, de répondre à ce que tu nous as dit dans Apocalypse, chapitre 22. Oui, je viens bientôt. Nous t'attendons, Seigneur. Et nous te disons oui ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.